Bonjour frères et sœurs, bonjour bien-aimés. Prenons place pour voir commencer ce culte d'adoration, de louange rendu à notre Dieu, lui qui en est digne. Nous sommes les bienvenus dans ces lieux pour le célébrer encore, pour reconnaître encore ses bienfaits dans nos vies cette semaine. Que nous soyons passés par des bons ou des moments plus difficiles, le Seigneur nous assure sa présence, sa grâce. Et comme il a dit à Paul, il nous assure que cette grâce est suffisante pour nous. Et donc à chaque fois qu'on arrive à traverser une semaine, c'est que la grâce de Dieu nous a suffi. Et comme nous traversons les semaines, donc cette grâce nous suffit. Nous sommes réunis en famille, en communauté. Et l'apôtre Pierre dira, attendez, chercher de trouver la référence, en 1 Pierre chapitre 2, versets 9 à 10, il dira, vous, c'est-à-dire nous, au contraire, vous êtes un peuple choisi par Dieu, des prêtres royaux, une nation sainte, un peuple racheté afin de proclamer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, vous êtes maintenant le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu compassion, vous avez maintenant obtenu compassion. Amen. Vous invite à prier. Notre Dieu, notre Père, quel privilège pour nous de pouvoir nous tenir là, debout, pour pouvoir te louer et te rendre gloire et grâce. Merci pour le souffle de vie. Merci surtout de nous avoir, comme ce texte nous dit, fait passer des ténèbres à ton admirable lumière. C'est une grâce dont nous essayons de mesurer la portée, mais nous sommes ô combien limités. Donne-nous simplement d'un cœur reconnaissant à t'offrir ce culte ce matin, au nom de Jésus. Amen. Et avant de chanter un premier chant, j'aimerais faire lecture du psaume 96, les six premiers versets. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez à l'Éternel, vous tous, habitants de la terre. Chantez à l'Éternel, bénissez son nom. Annoncez de jour en jour son salut. Racontez parmi les nations sa gloire, parmi tous les peuples ses merveilles. Car l'Éternel est grand et très digne de louange. Il est redoutable par-dessus tous les dieux, car tous les dieux des peuples sont des idoles. Par contre, l'Éternel, lui, il a fait les cieux. La splendeur et la magnificence sont devant sa face, la gloire et la majesté sont devant son sanctuaire. Famille des peuples, rendez à l'Éternel gloire et honneur. Chantons ce premier chant. Tu es merveilleux Seigneur, dans tout ce que tu fais, pour tout ce que tu es.
Nul n'est comme toi, tu es puissant et
Dans la foulée, ce deuxième chant. Je me salue ma sœur Anise qui est de retour parmi nous. Qu'est-ce que je me salue encore? Mon frère Raymond qui lève la main. Bonjour. Quoi, ma sœur Lisa, je ne t'avais pas vu non plus. Je salue ta présence. Voilà, c'est ça que je voulais dire. C'est Jonathan. Surtout que j'ai discuté avec lui. Je salue Jonathan également. Et bien sûr, nous tous. Tu es venu jusqu'à nous, quittant la gloire de ton ciel. Tu es venu pour servir, donnant ta vie pour nous sauver. C'est la raison même de notre présence. Tu es venu.
Tu es venu jusqu'à nous. Quittant la gloire de ton ciel, tu es venu pour servir, donnant ta vie pour nous sauver. Tu es tout puissant, roi serviteur, tu nous appelles tous à sacrifice à toi l'honneur, roi serviteur, dans le jardin de douleur, où mon fardeau brise à ton cœur, tu dis à Dieu. Volonté et dans la mienne, Dieu tout-puissant, roi serviteur, tu nous appelles tous à te suivre et à t'offrir nos corps en sacrifice. À toi l'honneur, roi serviteur.
Yeah.
Amen. Et alors que nous allons passer à notre moment de Sainte-Cène et que les sœurs vont commencer à distribuer les éléments, je voudrais simplement lire ce texte bien connu, bien sûr, que nous prenons presque à chaque Sainte-Cène. Car l'apôtre Paul, car il a reçu, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il rompit ce pain et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois où que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Amen. Parole du Seigneur. C'est une tradition saine, tradition sainte, que l'Église aime renouveler, sous le commandement d'ailleurs du Seigneur Jésus, pour faire ce devoir de mémoire. On parle de devoir de mémoire pour ne pas oublier l'esclavage, mais là, c'est pour ne pas oublier le sacrifice du Seigneur. Et nous devons discerner, nous dit l'apôtre Paul, ces éléments, ce qu'ils représentent. La souffrance du Seigneur, son sang versé pour nous, son corps meurtri pour nous. Nous sommes appelés à nous examiner afin de ne pas attirer sur nous un jugement. On sait que dans le cas des Corinthiens, plusieurs, l'apôtre Paul le dit, plusieurs étaient malades, d'autres étaient morts, pour n'avoir pas discerné. Alors discernons et prenons du pain et buvons de la coupe. Prions. En effet, merci notre Dieu de nous avoir... d'avoir tout prévu, et notre frère Raymond l'a dit, d'avoir prévu de livrer Jésus pour, à notre place, parce que c'est nous qui méritions ce châtiment. Et tu as fait ce châtiment retomber sur lui, lui le juste pour les injustes que nous sommes, que nous étions. C'est par pure grâce, par faveur, parce que tu l'as voulu. Cela aussi était rappelé, nous n'avons aucun mérite. Ce que nous sommes, nous te le devons. Et donne-nous à pouvoir en effet prendre ce pain, prendre ce vin en reconnaissance au sacrifice que le Seigneur a consenti à faire pour nous. Nous te remercions au nom de Jésus. Amen. Et avant de prendre le pain, bien sûr, cette institution, ce jour où ça s'est passé, Matthieu nous le raconte, Matthieu 26:26. Pendant qu'ils mangeaient, au cours de leur repas, Jésus prit du pain et prononça la prière de bénédiction. Puis il le rompit. Il le donna aux disciples en disant, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Mangeons le pain. Il prit ensuite une coupe et remercia Dieu. Puis il la leur donna en disant, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance, qui est versé pour beaucoup pour le pardon des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Buvons. Amen. Si quelques-uns veulent encore élever leur voix avant que nous continuions. Amen. Dans une magnifique, dans une magnifique doxologie, comment on peut traduire ça? une gloire donnée à Dieu de l'apôtre Paul quand il le remerciait pour ce qu'il avait fait des Éphésiens. Il s'est laissé aller. Et il a pu dire en lui, c'est-à-dire en Christ, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa gloire, que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Toute espèce de sagesse et d'intelligence. Nous faisant connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, à savoir de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, donc en Christ, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, c'est-à-dire Dieu. Amen. Et nous sommes les bénéficiaires de toutes ces merveilles. Et je n'ai pas pris tous les versets. Je vous laisse à la maison vous délecter de ce premier chapitre aux Éphésiens. Nous pouvons chanter, bien-aimés, encore. Louer le roi. Parce que sa mort nous a libérés. Amen. Louer, que louer.
Louez le roi.
Amen. Acclamons notre Seigneur. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. C'est le prochain chant. Car il est grand, glorieux, et il mérite toutes nos louanges. L'agneau est souverain. Amen.
Bonjour à tous. Et aussi bonjour à toutes. Pour moi, je ne pourrais pas dire que je suis content, mais le mot est faible. Je voulais dire que je suis heureux. Heureux de voir le peuple de Dieu ce matin. Heureux de vous voir. De voir vos yeux, me regarder. D'entendre vos salutations. Pour moi, pour mon épouse. Avoir mes nouvelles, comment je vais, comment elle va. Comme on dit, ça fait chaud au cœur, n'est-ce pas? Et c'est pourquoi je vous dis que je suis heureux. En un mot, j'étais absent pendant 2 mois. J'étais arrêté. J'avais des douleurs, donc mes douleurs se sont réveillées au niveau de mes épaules. Et même là, je suis incapable même de lever au-delà. Je ne peux pas. Je n'ai plus de cartilage. L'arthrose s'est installée. Et honnêtement, je souffre. Ensuite est venu le mot du dos qui s'est aussi réveillé. J'ai les lombaires 4 et lombaires 5 pour ceux qui sont dans les corps médicaux et vous qui avez déjà entendu, qui sont entassés, écrasés. Ce qui fait qu'au niveau droit, j'ai la hanche qui est un peu écartée et l'arthrose s'infiltre dedans. La douleur monte jusqu'au niveau de l'unique. Et Dieu merci parce que ça n'a pas touché le moelle épinière. L'arthrose s'est vraiment installée. Mais si je suis debout, si je peux vous parler, c'est pas la grâce de Dieu. C'est pour cela que je suis reconnaissant devant Dieu. C'est Dieu très haut à qui il a donné à chacun de vous de prier, de penser à nous. Il a entendu vos prières. C'est pourquoi je suis là. Je sais que l'Église aussi souffre, passe par des moments difficiles. J'ai vu sur le forum, nos bien-aimés aussi sont malades. Dans l'état où j'étais, j'ai aussi élevé ma voix pour prier aussi pour ceux et celles qui étaient aussi malades, qui sont peut-être encore malades aujourd'hui, dont certaines sont debout comme à Nice, etc. D'autres sont encore touchés. Que la guérison de l'Éternel dans les meurtrissures de Jésus soit sur chacun de nous. Amen. Voilà, c'est pourquoi ce matin, Dieu m'a permis que je puisse parler à son peuple. Mais je me suis dit, papa, de quoi devrais-je parler à ton peuple? Alors, la question que je me pose, que nous pouvons aussi nous poser, comment pourrions-nous définir le monde ou la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui? Comment pourrions-nous le définir? Bon, chacun peut donner sa définition, mais peut-être on va se retrouver ensemble. Je me suis dit que nous vivons dans un monde déchaîné, un monde fou, un monde délirant, démesuré, un monde immodéré, insensé, un monde bien-aimé, sans frein, sans retenue. Oui, le monde vit dans une course effrénée. Nous voyons partout se proliférer quoi ? De la restauration rapide. Nous achetons et nous voulons avoir des téléphones portables plus performants, des ordinateurs plus performants, qui se chargent plus vite, rapidement. Nous ne voulons pas que ça traîne. Je connecte, il faut que ça aille vite. Je charge, il faut que ça charge dans quelques secondes. Il faut qu'il y ait plus de gigas. Des fours à micro-ondes. Des cafés instantanés. Des livraisons rapides. Toutes ces choses, nous pouvons dire que ne sont pas mauvaises, n'est-ce pas? Mais de par le monde, il y a aussi, nous tous, nous travaillons dans des entreprises. Les entreprises qui sont en course au chiffre d'affaires, l'ouvrier n'est plus au centre du travail. Mais l'ouvrier est considéré comme un bouffon du roi. Vous savez, je veux vous étonner, peut-être ont déjà lu ça quelque part. Il y a en Floride, aux États-Unis, n'est-ce pas, une église qui assure l'ensemble du culte dans 22 minutes. Là, le culte était déjà fini. Là, nous avons dépassé les 22 minutes, là. Et dans ces 22 minutes, la place du sermon, donc le sermon, dure que 8 minutes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aux États-Unis, en Floride. Bien-aimés, nous attendons la télévision, dans les antennes de radio, et nous lisons dans les journaux que le pays se livre à la course des armements, à la nouvelle technologie nucléaire, dont nous connaissons les dangers par les essais, et la prolifération des armes de partout dans le monde. Notre société se déplace à une vitesse vertigineuse, n'est-ce pas, par laquelle nous n'arrivons plus à suivre. La population mondiale voit tout ça de bon œil. Tout ça, c'est bien. C'est la modernisation. C'est super. C'est affirmatif. Waouh. On se réjouit. C'est la voie du succès. La voie du plus fort. La voie du plus performant. En conclusion, le monde, les gens disent, c'est la façon meilleure de vivre. Mais quand nous analysons tous ces différents paramètres, bien-aimés, nous constatons et nous faisons un constat qui est mitigé. Certains diront, bof, au travers de tout ça, c'est la sécurité. Quand il y a des armements, la prolifération de toutes ces armes nucléaires, c'est la sécurité. Nous sommes en sécurité, entre parenthèses, de tout ce que nous entendons aujourd'hui dans ce que nous vivons maintenant. D'autres diront, la société devient incontrôlable. Tout est déréglé. La société est malade. La société est atteinte d'une maladie. Cette maladie que nous appellerons « Dépêchez-vous, dépêchons-nous ». Voilà cette maladie. « Dépêchez-vous, dépêchons-nous ». Vous savez, il y a même d'autres qui disent qu'il est devant l'ordinateur, ça ne charge pas vite, il dit « Mais dépêche-toi ». J'ai vu ça au travail avec mes collègues. « Dépêchons-nous ». Dépêchez-vous. Cette maladie tue. Vous allez me dire, mais c'est pas possible. Oui, ça tue moralement. Ça tue aussi physiquement et spirituellement. Et nous pouvons aussi appeler cette maladie, dépêchez-nous, dépêchez-vous, l'impatience. De l'impatience. Comment discerner une personne atteinte de cette maladie ou une personne impatiente? Comment pourrons-nous la définir? C'est quelqu'un qui veut que tout aille vite, selon ses plans, selon ses projets. Tout doit aller vite. Cette personne est souvent contrariée, nerveux ou nerveuse, parfois contre lui-même et avec d'autres. Il blâme toujours les autres. C'est toujours la faute des autres. Ce n'est pas sa faute. Cette personne impatiente ou impatiente rejette tout, critique tout. Ceci à chaque fois que les choses ne fonctionnent pas comme elle ou il veut. Il est souvent irrité. Irrité avec tout le monde ou presque. Il est souvent frustré de la vie de tous les jours. Il est soucieux ou soucieuse à chaque moment de la journée. Parfois, il est colérique. La colère arrive. Pas tout le temps, mais parfois. Et ce qui ruine régulièrement sa journée. Comment a été ta journée? Oh, bof, pas super. Pourquoi? Oh, je ne me sentais pas bien, j'étais en colère, j'étais irrité. Je ne voulais pas ce que je voulais. Ça n'a pas été. Je prends un exemple. Quand nous faisons nos courses, arrivés à la caisse, il y a une file d'attente. Et devant nous, nous constatons souvent qu'il y a des personnes âgées, à mobilité réduite, qui marchent lentement, difficilement. L'impatient ou l'impatiente, que fait-il? Il est agité. Il est dans tous ses états. Envers les personnes lentes, ça nous est jamais arrivé. À Carrefour, à n'importe quel magasin, avec le temps de Covid, pourquoi ça traîne? On regarde l'heure. Ça nous est jamais arrivé. Moi, ça m'est arrivé. Je vous l'ai dit. Frères et sœurs, c'est triste de faire ces constats. C'est triste de vous partager ça. Car souvent, chacun de nous, nous tombons dans ce piège. Notre société a perdu ses repères. Mais c'est lui qui tient le monde. Il est vivant, n'est-ce pas? Si Dieu est vivant, donc, il a une solution à cette maladie, à cette impatience. Il a une solution. Sa solution est claire. Elle est salutaire, sa solution. Comment pouvons-nous appeler cette solution? C'est la patience. La patience. La patience est devenue une solution rare à trouver, n'est-ce pas? Dans notre rythme de vie de tous les jours. Ça devient une solution rare. Qu'est-ce qu'est la patience? Lisons le psaume 86 au verset 15. Voilà. Mais toi, Seigneur, tu es un Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Ici, nous dirons que la patience fait partie de la nature de Dieu. Il est lent envers chacun de nous. Il est patient. Il est miséricordieux. Il nous pardonne. Dieu est amour. Et nous, nous sommes ses enfants. Nous devons, par sa grâce, posséder sa nature. C'est par sa grâce que nous pouvons posséder sa nature. Nous pouvons aussi dire que la patience, bien-aimée, est une vertu. Est une vertu qui consiste à endurer avec constance et résignation les vicissitudes, les malheurs, les souffrances, les épreuves de la vie, les blessures infligées par d'autres. La patience nous appelle à endurer toutes ces choses-là. La patience, comme m'a dit une sœur, que j'appellerai ma fille, m'a dit, mais c'est une qualité. C'est vrai que la patience est une qualité. C'est une qualité de celle ou celui qui sait attendre calmement, qui supporte les choses avec sang-froid. Il supporte quoi avec sang-froid? L'adversité, sans se plaindre, sans murmurer. Supporter parfois des situations irritantes ou douloureuses, sans se plaindre, sans murmurer. Oh Dieu! C'est aussi quelqu'un qui est persévérant, qui est résolu, constant et courageux ou courageuse. Bien-aimés frères, dans la Bible, la patience est citée à la quatrième position parmi les 9 aspects du fruit de l'esprit dans Galates 5, 22. Quand nous lisons, ou quand vous allez lire à la maison, vous verrez qu'elle est située à la quatrième. Après la paix, c'est la patience. Posséder ou avoir cette attitude sainte, bien-aimée, c'est les caractéristiques de celles et ceux qui appartiennent à Dieu. Celles qui appartiennent à Dieu et possédant l'Esprit de Dieu. Je ne peux pas appartenir à Dieu sans, pour autant, posséder aussi son Esprit. Car nous sommes les temples du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu habite en nous. Donc, c'est les caractéristiques de toutes celles et ceux qui appartiennent à Dieu et possédant l'Esprit de Dieu. Comment ? Mais par la foi en Jésus-Christ, notre Seigneur. Alors, posons-nous la question, quels sont les avantages de la patience dans nos vies? Quels sont les avantages? Nous avons défini les contraires de la patience, qui est l'impatience, que nous avons dit c'est une maladie qui devait être traitée, soignée. La solution, le remède, c'est la patience. Mais quels sont les avantages de la patience dans nos vies? Lisons 1 Thessaloniciens 5, 14 à 15. Nous vous prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre. Considérez ceux qui sont abattus, supportez les faibles, usez de patience envers tous. Prenez garde que personne ne rende donc à autrui le mal pour le mal, mais recherchez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. Dans ce contexte, quel est le bien que la patience peut nous faire? L'apôtre nous dit que la patience nous aide à nous supporter les uns et les autres, à nous consoler, à chercher le bien entre tous et envers tous. La patience nous aide à arriver jusqu'à ce point-là. Est-ce que je supporte mon frère, ma sœur? J'arrive à supporter mon voisin, ma voisine, mon ami, mon collègue de travail? Est-ce que j'arrive? Dans le même contexte, l'apôtre Paul nous exhorte aussi à vivre dans l'humilité. Mais comment? Comment pourrons-nous vivre dans l'humilité? Car beaucoup disent qu'être humble, c'est une faiblesse. Et pourtant, qu'être humble, c'est une force. Mais comment pouvons-nous vivre dans cette humilité? En exerçant la patience. En exerçant la patience autour de nous. En exerçant la patience dans l'Église, entre frères et sœurs. La patience nous apporte aussi la paix. La paix, bien-aimée. En recherchant ce qui contribue à la paix, nous vivons en harmonie les uns et les autres. Si nous recherchons la paix entre nous, parmi nous, nous allons vivre que dans l'harmonie les uns et les autres. Aujourd'hui, les armes parlent. Dans un coin du monde, il n'y a plus d'harmonie. Il n'y a plus de paix. La patience contribue. Nous allons vivre les uns les autres dans cette joie, loin des querelles, loin des préjugés, loin des invectives, bien-aimés. Pourquoi? Parce que l'affliction de l'esprit, c'est la vie et la paix. La personne qui a l'esprit fixé, bien-aimé, sur les œuvres de la chair, ah, mon esprit, ce n'est pas l'esprit de Dieu, mais mon esprit est fixé sur les œuvres de la chair. Les disputes, les critiques, médisances, l'hypocrisie, etc., la liste, elle est longue. Et cette personne est spirituellement morte. Elle est morte spirituellement, nous dit la parole de Dieu. Par contre, La personne qui a son esprit fixé sur les choses d'en haut. Les choses d'en haut. Les choses d'en haut, c'est quoi? C'est la bonté, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix, c'est la patience, etc. Tout ce qui est cité dans Galates, l'espoir. Cette personne qui a fixé son esprit sur ces choses-là est vivante. Vivante spirituellement. Et il est en paix avec Dieu et en paix avec tout le monde. La parole nous dit, recherchez la paix avec tout le monde. Soyez en paix. Nous devons être en paix avec tout le monde. Dieu connaît nos cœurs. Est-ce que si je parle aujourd'hui, je suis en paix avec tout le monde? Ou il y a quelque chose qui cloche? À chacun de répondre. Recherchons la paix. Romains 8, versets 5 à 6. Tout ce que nous venons de dire, la patience apporte la paix. Nous le retrouverons dans Romains. Je n'ai pas pu mettre ces versets devant vous, mais pour ceux qui prennent note ou ceux qui vont retenir, c'est Romains 8, versets 5 à 6. Et dans le même texte, je vais encore ajouter ceci, que la patience de Dieu est notre salut. Quand vous lirez les textes, vous verrez que la patience de notre Dieu, c'est notre salut. Dieu est patient envers nous parce qu'il veut du bien pour nous, il veut notre salut. Il veut que chacun et chacune puisse donc prendre place auprès de lui. Dans 2 Pierre 1, nous allons lire versets 5 à 7. À cause de cela même, faites tous vos efforts. Pourquoi devons-nous faire des efforts? Pour joindre à votre foi la vertu. À la vertu, la connaissance. À la connaissance, la maîtrise de soi. Et à la maîtrise de soi, la patience. Et à la patience, l'amitié fraternelle. Voilà, la patience. C'est là où j'ai dit, mais dans l'Église, si nous sommes en paix les uns les autres, si nous sommes patients les uns les autres, mais il y a l'amitié fraternelle. À l'amitié fraternelle, c'est l'amour. C'est l'amour à l'amitié fraternelle. Quand il y a cette amitié, dans la joie, dans l'humilité, dans la patience, cela engendre que l'amour entre nous. Oui, peuple de Dieu, Dieu nous aime. Toutes ces vertus que l'apôtre Pierre vient de mentionner, ce sont que des bénédictions pour chacun de nous. Prenons ça comme des bénédictions. Les fruits de l'esprit qui est situé parmi la liste des aspects des esprits dans 5, Galates 5, ce sont que les choses d'en haut, et ces choses d'en haut, nous pouvons les rechercher, les posséder pour la gloire de Dieu. C'est pourquoi ces vertus sont des bénédictions pour chacun et chacune. Vous savez, nous ne pouvons pas vivre, mener une vie chrétienne sans effort. C'est pas possible. C'est pas possible. Nous devons nous battre. L'exemple de Paul et les autres. Nous devons nous battre. Nous devons faire. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Vous avez déjà lu ces textes. Faites tous vos efforts. La vie chrétienne n'est pas facile. Nous devons nous combattre. Nous devons aller de l'avant. Fournir des efforts. Or, certains diront, même si nous savons que c'est Dieu qui produit en nous les vouloir et les pouvoir. Nous le savons bien. Mais nous devons fournir des efforts. Philippiens 2, verset 13. C'est pourquoi, bien-aimé, la patience doit s'accompagner de la piété. De la piété, bien-aimé. Ce n'est pas de la piété hypocrite. La piété qui relève la gloire de Dieu. La patience doit s'accompagner de la maîtrise de soi, de la persévérance et de la joie. Est-ce que je suis joyeux? Est-ce que je suis joyeuse? Je suis heureux de vous voir. J'ai de la joie dans mon cœur de vous voir. C'est là, je sais qu'il est réciproque aussi pour chacun, chacune de vous. Nous sommes heureux de nous revoir, de nous parler, de partager ce matin. La patience nous aide aussi à persévérer. Hébreux 12, que nous allons lire, Hébreux 12, verset 1. Nous aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau. Alors j'ouvre la parenthèse en la fermant tout de suite. Je prends comme exemple ici du fardeau l'impatience. Rejetons ces fardeaux-là, rejetons-le. Ça ne nous appartient pas. L'impatience, excusez-moi le terme, mais c'est une marchandise pourrie qui vient que du diable, pas de Dieu. Dieu est patient, il n'est pas impatient envers nous. Certes, sa patience a des limites, mais Dieu n'est pas impatient. Ça vient que de l'ennemi. Je continue la lecture parce que le texte n'est pas fini. Et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Ici, la patience signifie endurance, endurer. Un chrétien court patiemment en persévérant à travers les difficultés de la vie. Nous courons. Comment je dois courir? Les chrétiens doivent attendre patiemment que la promesse de Dieu s'accomplisse pendant qu'il est en train de patienter dans l'épreuve. Le chrétien, le croyant, attend patiemment que la promesse s'accomplisse. Est-ce que vous attendez? Est-ce que nous attendons ensemble dans les circonstances? Moi-même, je suis, mon corps physique est amoindri. Physiquement, je suis faible, mais je suis fort dans le Seigneur. Car Dieu nous dit que voilà, que je vous rajeunis comme l'aigle. Même si mon âge est avancé parmi vous, parce que la plupart qui sont là, c'est comme mes enfants. Sauf vous, c'est ma grande sœur. Il y a d'autres aussi qu'on a presque même âge, comme des petits frères. Mais en général, c'est comme mes enfants. Oui, Dieu nous rajeunit comme de l'aigle, n'est-ce pas? Il nous rajeunit. Car il est bon pour l'homme d'attendre en silence le secours de l'Éternel, qui n'arrive jamais, jamais en retard. Alléluia. Jamais en retard. Moi, je peux arriver en retard. Je vous donne rendez-vous, j'arrive en retard. Mais Dieu, non. Quand il dit quelque chose, cela s'accomplit au temps voulu, décidé par lui. Colossiens 1, verset 11, nous lisons ceci. L'apôtre Paul nous dit, fortifiez-vous à tous égards, par la puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérants et patients. Fortifions-nous à tous égards, par la puissance glorieuse. Donc, c'est-à-dire que pendant ces temps que je suis dans l'épreuve, dans la souffrance, je dois me fortifier. Je ne veux pas murmurer comme l'impatient qui murmure, qui se plaint. Non, je dois être persévérant, je dois être dans la joie en attendant que s'accomplisse la promesse de Dieu dans ma vie. Elle s'accomplira. Alléluia. Mais vous savez bien, comme moi, que la patience ne se développe pas du jour au lendemain. Ah non. Petit à petit, la patience se développe. D'où la puissance que l'apôtre Paul nous décrit ici et la bonté de Dieu joue un rôle crucial dans le développement de la patience en nous. Frères et sœurs bien-aimés, notre patience se développe et se fortifie aussi quand nous nous reposons sur la volonté suprême et parfaite de Dieu. Il n'y a pas d'autre chose. Quand je me repose, bien-aimé, et je me fortifie dans sa volonté et dans le temps parfait de Dieu, j'ai la force dans l'épreuve. Je persévère et j'attends. Vous savez, je vais encore plus loin. Même face à la méchanceté des hommes, de ceux qui ne sont pas aimables. Même, c'est vrai que, on dit, mais c'est l'homme, il n'est pas aimable, c'est incroyable. même devant la personne qui n'est pas aimable, devant sa méchanceté totale, c'est dur parfois à supporter, mais ce qui est rassurant, c'est que notre patience sera finalement récompensée. Lamentation 3 de Jérémie, au verset 25. Lamentation 3. Non, il n'est pas là. Oui, c'est vrai. Je n'ai pas donné. Merci, ma soeur. Ma fille. Dans Lamentation de Jérémie, verset 3, Jérémie nous dit que l'Éternel a de la bonté pour celle ou celui qui compte sur lui et qui le recherche. Je sais que pendant l'adversité, dans ce moment de difficultés atroces, je recherche Dieu. Je ne mets pas Dieu à l'écart. Parce que je sais que la bonté de Dieu et ses compassions se renouvellent chaque jour et chaque matin. Nous trouvons dans la Bible de nombreux exemples de personnes dont la marche avec Dieu a été caractérisée par quoi ? Par la patience. Et oui, j'ai entendu comme Job. Job a enduré des... je ne sais. Quand je lis ces livres, j'ai dit, mais moi, Adrien, je ne peux pas. C'est vrai que je passe sur Job et avec plusieurs enfants. Mais moi ou ma famille, nous avons une qui est partie. Mais Job, ce n'était pas un, c'était tous ses enfants. Quelle souffrance de cet homme. Et je ne vais pas aller plus loin. La maladie, son entreprise dont tout ce qu'il avait était balayé. Maudit Dieu et meurt. Quel conseil, cet conseil vient que de l'enfer. Job n'a pas écouté tout cela. Job, bien-aimé, a été persévérant. Persévérant jusqu'au bout. Et il a été récompensé par la fin que le Seigneur lui a accordée. Il lui a donné des belles filles. Il a multiplié plus encore tout ce qu'il avait. Il lui a donné encore des années, je crois, 140, je peux me tromper, plus après ce qu'il avait déjà. Il était rassasié. Il a béni l'Éternel. Pourrions-nous bénir l'Éternel quand nous traversons l'épreuve et que l'épreuve est passée? Est-ce que nous le faisons? Préparons-nous à l'autre qui va arriver, tant que nous vivons. Nous avons aussi dans Jacques 5, où l'apôtre Jacques nous décrit la souffrance des prophètes. Les prophètes ont beaucoup souffert, n'est-ce pas? Les apôtres aussi, on peut ajouter. Oh, quand nous voyons comment les apôtres sont morts, j'ai toujours cet exemple d'André qui a été attaché à la charrette et puis les chevaux couraient. Il y avait les membres qui partaient de gauche à droite. Quelle mort atroce! Quelle mort atroce! Ce n'est qu'un exemple, je ferme la parenthèse. La souffrance des prophètes et des apôtres. Dans Hébreux 6 et 15, nous avons aussi là une leçon, une belle leçon. C'est qui? C'est Abraham. Abraham aussi, à 95 ans. Croyez-vous qu'à 95 ans, il peut encore avoir un enfant? Tellement qu'il était fidèle à sa femme. Son épouse était déjà, elle avait déjà atteint, excusez-moi, entre parenthèses, la ménopause, auquel on ne peut pas même avoir encore d'enfant. Mais Dieu a balayé tout cela. Ils ont eu un enfant, Isaac. La promesse de Dieu est arrivée. Mais Abraham et Sarah ont attendu avec patience et foi pour arriver à l'accomplissement de cette promesse, afin d'obtenir ce qui leur avait été promis par Dieu. Pouvons-nous faire de même? Attendre aussi la promesse de Dieu pour nous-mêmes, pour nos enfants, pour notre Église? Nous recherchons jusqu'à aujourd'hui d'avoir une salle. Est-ce que nous sommes patients d'attendre? Dieu est souverain, comme j'ai entendu dans la prière. Il sait ce qu'il fait dans nos vies. Il sait toutes choses. Dans Hébreux, c'est l'exemple parfait. Dans Hébreux 12, verset 2, nous allons lire ça, c'est l'exemple parfait. Ayant le regard sur Jésus,
qui suscite la foi et la mène à la perfection, en échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix. Jésus a méprisé l'ignominie et assis à la droite du trône de Dieu. Jésus, le vainqueur, le bien-aimé. L'exemple de Christ nous est donné afin que nous regardions à lui comme l'instigateur, comme l'objet suprême bien-aimé de notre foi. C'est lui l'instigateur de notre foi. C'est lui l'objet suprême de notre foi. Non pas seulement la foi, mais je compléterai aussi de notre salut. Quiconque a Christ a la vie. Quiconque a Christ a le salut, la vie éternelle. Il est tout ça pour nous. Il est aussi l'initiateur de la foi qui amène cette foi à la perfection. Une question. Croyons-nous en Jésus? Bien-aimé, les joueurs dans le stade, quand Mbappé sort, c'est tout le monde qui crie. Mais ici, quand je vous pose la question simplement de dire, croyons-nous en Jésus? Amen. J'ai entendu seulement Amen. Mais je sais que vous croyez en Jésus. Je le sais. Mais seulement c'est pour vous motiver, vous dire que nous devons être aussi exaltés de dire que oui, je crois en Jésus. Nous devons être fiers de notre Seigneur, de ce qu'il a fait pour chacun de nous. Nous ne devons pas être timorés. Oui, c'est lui qui mène notre foi à la perfection. Alors, posons-nous la question, nous sommes presque à la fin. Posons-nous la question, comment manifester ou manifestons-nous ce qui caractérise donc la patience de Christ? Comment pouvons-nous le manifester? D'abord, en remerciant Dieu, car la Bible nous dit de nous réjouir de la volonté de Dieu. C'est ça le premier abord. Nous devons remercier Dieu. Lisons 1 Pierre 1, verset 6 à 7, verset 6 à 9. Merci. C'est là ce qui est votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, entre parenthèses, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire, l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Vous l'aimez. Aimez qui c'est Jésus. Vous l'aimez sans l'avoir vu. Vous croyez en lui sans le voir encore. Vous réjouissant d'une joie merveilleuse et glorieuse parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. J'aime, je ne l'ai pas vu. Je crois en lui, je ne l'ai pas vu. Mais j'espère en lui et je ne l'ai pas vu. Et je suis joyeux et glorieux parce qu'il est là. Parce que je sais que j'obtiendrai le salut. Il a dit lui-même que j'y vais. Et je vais préparer pour chacun de vous une place. Mais ce n'est pas du mensonge, c'est la vérité. Cette place est déjà réservée. Alors faisons tous nos efforts pour que cette place soit réservée pour chacun de nous. Bien-aimés, la patience de Christ produit en nous la foi véritable. Parce que c'est lui qui mène cette foi à la perfection. Donc c'est la foi véritable et de l'espoir. L'espoir de le revoir. Nous avons tous, chacun, chacune, l'espoir de revoir notre Seigneur. Quelle joie de le revoir. Moi, s'il me dit, mon fils vient maintenant, j'ai dit, j'arrive. Je suis dans la joie de le revoir. Certes, en cherchant sa volonté, parce que nous devons nous réjouir de la volonté de Dieu. En cherchant sa volonté, parfois Dieu nous met, il nous place devant des épreuves, des situations difficiles, des situations délicates, critiques. Nos aînés nous racontent des histoires, nous les disent. Des situations vraiment difficiles, inattendues. Comment pourrions-nous appeler quand Dieu nous place ou nous met devant de telles situations? C'est sa volonté permissive. Il permet. Dieu ne veut pas du mal pour nous. Il veut que du bien. Mais il permet que cela nous arrive, comme l'exemple de Job. Il a permis que cela arrive à Job. S'il les permet, pourquoi? C'est pour que nous puissions être ses témoins. Des témoins de la délivrance et de la sortie des épreuves. Parfois, il les permet pour aussi la sanctification de notre caractère, de notre comportement, qui est parfois odieux, incompréhensible, invivable même. En cela, nous devons comprendre que Dieu ne nous fait pas perdre le temps quand nous traversons la vallée de Baca, la vallée des souffrances, des douleurs, des épreuves dures. Quand nous traversons cette vallée, ne mettons pas en tête que voilà que... Mais le temps de Dieu est long. Je perds mon temps. Oh, j'aurais dû être... Vous savez quoi, une fois ça m'est arrivé, il y a quelques années, c'est une parenthèse. J'étais en vacances. Et paf, pendant les vacances, je suis tombé malade. J'ai dit, mais au lieu de me réjouir de mes vacances, je suis malade. Je ne profite pas de mon temps. Pourquoi suis-je dans cet état? Cela m'est arrivé. J'ai perdu mon temps au lieu de me réjouir. Au lieu d'aller à gauche, à droite, mais j'étais allongé, alité. Et quand ça commençait à aller mieux, il fallait reprendre le travail. Vous vous rendez compte? J'ai crié à Dieu. Et je me rappelle toujours, à l'époque, j'étais tout seul comme ça, j'ai crié. Et ma femme m'a dit, est-ce que ton Dieu est mort? Moi, elle dit, mais non, il est vivant. Et je me suis levé, c'était fini. Et ça, cette anecdote, c'est vraiment, c'est du vécu. C'est du vécu bien-aimé. Donc Dieu ne nous fait pas perdre le temps. Lorsque nous passons par la vallée de Baca, Dieu, vous le savez bien, est en dehors de temps. Dieu, il règle, il gère le timing de notre vie comme il veut et quand il veut. C'est lui qui gère toutes choses. Ce n'est pas nous, c'est lui. Aujourd'hui, Adrien et X, tu seras comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. C'est lui qui gère tout. Nous devons être seulement à son écoute et faire sa volonté chaque jour, à chaque instant. Donc c'est lui qui gère le timing de notre temps. Car l'objectif de Dieu est notre croissance, parce que Dieu veut que dans les épreuves que nous croissions, nous faisons des progrès pour sa gloire. Et pendant que nous endurons, nous persévérons dans les épreuves, dans la souffrance, Dieu ne nous laisse pas. Il est là avec nous. Il nous accompagne. Il sait que nous allons nous en sortir parce que sa main est avec nous. Il va nous conduire jusqu'au bout. Dans cette vallée de Baca, il va nous conduire jusqu'au bout et nous allons voir la lumière qui est au bout. Et ça pendant le temps que Dieu a décidé. Ce n'est pas notre temps. Enfin, souvenons-nous de ces promesses qui sont plusieurs dans la Bible. Mais il y a une que nous citons souvent, que nous aimons. Et nous savons que les promesses de Dieu sont oui et amen. Mais celle-ci, nous la citons. Peut-être il y a une personne qui a lu ça ce matin. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Toute chose, toute chose. Et quand on dit toute chose, cela inclut aussi notre patience à l'épreuve. Toute chose. Toutes choses, cela inclut aussi notre patience à l'épreuve. Concours au bien de ceux qui aiment Dieu. Je souffre, j'attends, je patiente, j'endure, je persévère parce que j'aime Dieu, parce que Dieu m'aime. Entre parenthèses, je ne parle pas d'ici parce que Dieu n'est pas l'auteur du mal. Je ne parle pas ici d'une épreuve que nous avons nous-mêmes cherchée. Non, cette épreuve-là, Dieu va nous en sortir aussi en se repentant, en reconnaissant notre faute devant lui. Ça, c'est une parenthèse. Donc, cette épreuve, Dieu va nous aider aussi. Mais l'épreuve que nous parlons ici, ce sont des épreuves que Dieu permet dans nos vies. Il y a une différence à faire. J'étais tenté de faire quelque chose. Mardi, je parlais sur la tentation. J'étais tenté de faire quelque chose. Je suis tombé dans le piège de la tentation. Je souffre, etc., etc. Souvent, je dis à mes collègues au travail, tu es tenté par la beauté de cette fille, de cette femme, et tu commets un péché, l'adultère, mais tu vas supporter tes conséquences, n'est-ce pas? Oh, laisse-moi tranquille. Je profite de la vie. Ce n'est qu'un exemple, n'est-ce pas? Bien-aimé, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Je prends quelques exemples pour finir qui peuvent nous arriver au quotidien. Quelques exemples. Comment réagissons-nous quand nous sommes coincés dans un embouteillage? Comment réagissons-nous pour ceux qui conduisent ou ceux qui sont à côté du conducteur ou conductrice? Comment réagissons-nous? Quand un ami ou une amie, donc, nous désavoue ou nous trahit, comment réagissons-nous? Ou nous insulte? Comment réagissons-nous? Quand on se moque de nous, quand on se moque de mon enfant, quand on se moque de ma famille, de mon travail, de ce que je fais, quand on se moque de mon témoignage en tant qu'enfant de Dieu, comment réagissons-nous? Vous savez, il y a plusieurs, on peut continuer. Mais je m'arrête là en disant que la réaction naturelle de l'homme, c'est quoi? C'est cette maladie-là, l'impatience. Lui-là, je ne peux pas le louper. Lui-là, je l'attends au tournant. Ah oui, je dois lui rendre la monnaie. Rendre la monnaie, c'est faire du mal, hein, ce n'est pas du bien. C'est faire du mal. Lui-là, je l'attends au tournant, je vais lui rendre la monnaie. Frères et sœurs, est-ce que c'est là notre activité au quotidien, rendre le mal aux autres? C'est faire du bien aux autres, n'est-ce pas? Quelles que soient les circonstances, quelles que soient les épreuves, même s'il m'a insulté ma famille, etc., je ne vais pas rendre le mal. Parce que Dieu me dit de faire le bien. C'est lui ou celle qui sait faire du bien et ne le fait pas commet un péché. Voulons-nous tomber dans ce péché? Loin de là. Christ nous a libérés de toutes ces choses. C'est pourquoi, frères et sœurs, puisque Christ nous a libérés de tout cela par sa mort et sa résurrection, rendons grâce à Dieu de ce que nous ne sommes plus esclaves de nos réactions naturelles. Nous ne sommes plus esclaves de tout cela, puisque nous sommes devenus de nouvelles créatures. Dans Corinthiens 5, verset 17. Et par la force que Dieu donne, il nous aidera aussi à réagir avec patience, en ayant pleinement et totalement confiance en lui et à ses desseins. Car celles et ceux qui, par la persévérance, bien-aimés, font les biens en rejetant le mal, recherchant l'honneur, la gloire de notre Dieu, l'incorruptibilité, je ne veux pas être corrompu pour ceci et pour cela, à tout cela, le saviez-vous, Dieu leur donnera la vie éternelle. Dans Romains 2, verset 7. Oui, Dieu nous aime. Dieu nous aime bien aimés. C'est pourquoi nous savons que, n'oublions pas une chose, que l'accusateur de nos frères rôde autour de nous jour et nuit, comme un lion rugissant. Que devons-nous faire? Satan est mauvais. Il a pointé toutes ses antennes partout de gauche à droite, sur nos sentiers, partout. Il est là. Que devons-nous faire? Vous, servante, serviteur de Dieu, nous devons toujours apprendre, lorsque nous sommes confrontés, bien-aimés, à l'incompréhension, c'est-à-dire que ce qui nous dépasse, nous n'avons pas de solution, quand nous sommes confrontés à cela, nous devons faire confiance au juge, à ce juge qui est omniscient, à ce juge qui est omnipotent, à ce juge qui est omniprésent. c'est juge de l'univers. C'est Dieu, le maître, le créateur. Quand nous sommes confrontés à l'incompréhension, tournons-nous vers lui. Faisons-lui totalement confiance. Totalement confiance. Voilà ce que Dieu m'a donné à cœur. Je reviendrai pour la bénédiction après. Voilà ce que Dieu m'a donné à cœur de vous partager ce matin. Merci pour votre patience. Vous avez aussi été patient et patiente à m'écouter. À écouter surtout ce que Dieu m'avait mis à cœur de vous donner, de vous partager. La joie est réciproque. Que Dieu nous bénisse et nous allons prier. Prions. Éternel notre Dieu, nous voulons encore, après ce message, donner gloire à ton Saint-Nom, parce que tu es le Dieu Tout-Puissant. Ce matin, Seigneur, je ne veux pas faire un appel. Si je faisais un appel, c'est toute l'assemblée qui serait debout, parce que nous sommes et nous avons vécu et nous nous retrouvons devant les patiences dans chacune de nos circonstances de la vie. Mais Seigneur, quand nous tournons nos regards vers toi, nous savons que tu es celui qui nous donne la force, l'endurance, de pouvoir tenir bon, comme Job, etc. Seigneur, notre Dieu, viens à notre secours. Remplace, s'il te plaît, papa, l'impatience dans notre vie, remplace-la par la patience, afin que nous puissions être, Seigneur, ces témoins qui te glorifient, ces témoins, Seigneur, qui veulent faire ta volonté pour que ton nom soit glorifié dans chacune de nos vies. Seigneur, donne à chacun de nous cette force. Nous te supplions au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse tous.
Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Amen. En conclusion de cette prédication, je vous propose de chanter pendant que ma sœur Julie passe pour récolter ce qu'on a mis à part pour le Seigneur. Je vous propose de chanter « Oui ». J'ai la vie de Dieu en moi, sa nature, sa capacité, la vie de Dieu en moi. Sentez-vous libre de sauter et de danser.
La joie de Dieu en moi, j'ai sa joie, sa nature et sa capacité. J'ai la joie de Dieu en moi, j'ai l'esprit de Dieu en moi, j'ai l'esprit de Dieu en moi. J'ai son esprit, sa nature et sa capacité. J'ai l'esprit de Dieu en moi, j'ai l'amour de Dieu en moi, j'ai l'amour de Dieu en moi. J'ai son amour, sa nature et sa capacité. J'ai l'amour de Dieu en moi. Et j'ai la paix de Dieu en moi. Et j'ai la paix de Dieu en moi. J'ai sa paix, sa nature et sa capacité. J'ai la paix de Dieu en moi.
Amen.
Notre Père, je vous mets ces offrandes devant ton trône, Seigneur. Merci, car c'est grâce à toi que nous pouvons travailler toujours la force, nous lever chaque matin pour travailler. Seigneur, moi, je te remercie pour cela. Bénis ces offrandes, Seigneur, et permets qu'elles puissent être utilisées à terme pour notre Église. Merci pour les personnes qui ont pu donner, et comme celles qui n'ont pas pu donner, Seigneur, tu connais les situations. Permets que l'on puisse donner avec un cœur sincère, Seigneur. Merci. Au nom de Jésus, Amen.
Amen.
Voilà les annonces avec adieuse Isabelle.
Alors, bonjour bien-aimés. Alors nous passons à notre temps d'annonce pour la semaine du 4 au 10 avril. Donc cet après-midi de 16h à 17h30, ici même se tiendra la deuxième séance de formation pour les anciens et les diacres de notre alliance. Cette séance se poursuivra sur le thème des responsables dans le Nouveau Testament. Ensuite, ce mardi 5 avril, de 20h à 21h30, nous aurons notre temps de prière. Le groupe des hommes, quant à lui, se réunira le samedi 9 avril, de 16h à 18h à l'église. Nous nous retrouverons tous comme aujourd'hui, donc dimanche prochain 10 avril, de 10h à 11h45 pour notre culte d'adoration. Nos enfants également seront accueillis avec joie par les monitrices de l'école du dimanche. Nous rappelons également l'Assemblée générale ordinaire de l'Église de Créteil ainsi que l'Assemblée générale ordinaire du diaconat dimanche prochain à 14h. Tous les membres de l'Église sont invités à y participer et il me semble qu'Adrien, tu as un complément d'information à ce sujet.
Non, je pense que tu as tout dit, ma sœur, simplement que ceux qui ont des choses